Ismène, un poème dramatique de Yanis Ritsos, enregistré en public dans la cour du musée Calvé le 18 juillet 2017 dans le cadre du Festival d'Avignon. Lecture, Isabelle Adjani et Michel Esco.
Un jeune officier de la garde a demandé à être reçu au palais. Son père travaillait depuis son enfance dans les fermes et était devenu en quelque sorte l'homme de confiance de la maison. Désormais vieux et malade, il envoie son fils, avec un pot de basilic et un panier de fruits, présenter ses respects et ses adieux à la dernière représentante de la grande famille exterminée. L'autorisation est donnée. Le jeune homme apparaît, bien sanglé dans son uniforme, beau, vigoureux. Son visage respire la cordialité toute hellénique de son origine paysanne. De toute sa personne émane une visible sensualité, évidemment cultivée par ses contacts avec les gens de la ville et par le désœuvrement des casernes. Et il semble particulièrement ému, flatté et presque troublé en face de la noble dame. Il dépose un peu gauchement sur le plancher le pot et le panier, comme s'il avait fait là quelque chose d'inconvenant, et transmet le message de son père. Elle lui offre un siège en face de la fenêtre, lui pose des questions sur la santé de son père, s'enquiert du bon état des fermes. Il parle alors interminablement de la vie dans les champs, des récoltes, des arbres, des rivières, des chevaux, des vaches. Elle, bien que distraite, fait montre du plus vif intérêt pour tout et remarque ses mains puissantes, maladroites, posées sur ses genoux. La lumière, buée rosâtre, entre par la fenêtre ouverte et tourne lentement à l'orange, au mauve, au violet, à l'outre-mer. Dans le jardin, on entend chanter les oiseaux. Tout à coup, le jeune officier se tait. Le soir tombe. Un silence. Et une attente inexplicable. C'est peut-être pourquoi elle se met à parler à son tour, comme pour remplir le vide ou pour détourner l'approche de quelque chose qu'il faudrait éviter, et pourtant d'inéluctable.
Venez, de temps en temps. Cela me fera plaisir. Par ici, le temps est lent. Plus rien n'arrive ni ne part. Sinon, cette banale corruption du bois des meubles, des poutres du toit, des étages, des escaliers, des plâtres, des serrures, des rideaux, des charnières. Lente altération, une rouille sournoise, surtout sur les mains et sur les visages. Au mur, les grandes horloges se sont arrêtées. Personne ne les remonte. Et quand parfois je me mets devant, ce n'est pas pour voir l'heure, mais mon visage même. Reflété sur le verre, étrangement blanc, un visage de plâtre, impassible, hors du temps, tandis que dans le fond obscur, les aiguilles arrêtées juste derrière mon image sont une lancette immobile qui n'a plus de blessure à ouvrir, qui n'a plus rien à m'enlever. Peur ou espoir, attente ou anxiété. Ce ralentissement multiplie la distance entre moi-même et moi, entre un geste et l'autre, entre un souvenir et l'autre. C'est un mois entier qu'il faudrait pour passer d'une chambre à l'autre. Une sorte de brouillard vague se tient entre toutes choses. Souvent, Les matins d'hiver, je suis là, derrière les vitres, et je regarde la distance comme une amie. Dans le fond, il arrive que quelqu'un passe, vaporeux. Une tache sans visage, sans chair. Et l'on n'essaie même pas de la distinguer vraiment, et l'on ne se soucie pas non plus de savoir où elle va, ici ou là, cela revient au même. Cette belle incertitude est la seule réalité. Elle fait de moi une étrangère lointaine, presque invulnérable, comme cette tache dans la brume. Et j'aime cette légèreté. Mais en même temps, j'en ai peur. Si j'enlevais ces bracelets, si je dénouais mes cheveux la nuit, si je dénouais les lacets de mes sandales, ou si j'enlevais seulement ces lourds colliers qui me serrent la gorge comme les anneaux d'une chaîne, je crois que je m'en irais vers le haut. Je me volatiliserais. Je ne voudrais pas. C'est sans doute pour cela que je les porte. À leur façon, ils me retiennent, même si souvent ils me gênent. Je les porte, mais dans mon sommeil, je me sens comme un chien que j'aurais moi-même attaché à une porte tombée.
Un fossé de silence, comme vous avez dit, entoure cette maison. Respectable ou non, quelle importance ?
Quelque part, ici, au fond de moi peut-être, il y a un long couloir étranglé, sans lucarne, sans lanterne, sans porte.
Ils ne mènent nulle part. Ils sont la planche pourrie, la poussière, le moisi, les cafards. Le temps révolu. Des hommes passent sans rien dire en portant des chaises brisées, de grands caissons de bois, des tableaux, des miroirs très anciens.
Bien sûr, un peu de feu dans la cheminée l'hiver représente quelque chose. J'ai toujours aimé voir danser les flammes. Leurs mouvements sont si faciles. Anges incorporels de toutes les couleurs. Leurs ombres sur le plafond, sur les murs. L'ombre du grand métier à tisser ou du débidoir.
L'ombre d'une guitare accrochée au pilier. Et par-dessus tout, si les corps sont nus, les ombres agrandies des membres sur leur propre corps, comme un autre corps plus sombre et plus rouge. L'ombre de la poitrine, au-dessous de la poitrine, avec le bout du sein souligné.
L'ombre de la bouche dans la bouche.
L'ombre de la bouche dans la bouche.
Cette terrible certitude physique, cette délicieuse aversion lorsque les membres se redressent pour en définitive fléchir dans un profond recueillement qui n'est pas de l'humiliation. Céder, je pense, est la mesure de la grandeur. Ceux que la peur retient toujours n'ont pas la force, ma sœur, par exemple, de s'incliner, et ils restent crispés sur les cimes glacées de leur propre impuissance. D'où vient leur orgueil, alors ? Où est leur vertu ? Mais ma sœur croyait tout régler avec ses « il faut » et ses « il ne faut pas ». On aurait dit qu'elle annonçait cette religion future qui sépara le monde en deux, en ici et en au-delà, qui sépara le corps de l'homme en deux, répudiant tout ce qui était au-dessous de la ceinture. J'avais pitié d'elle, c'est vrai. Pour un peu, elle m'aurait fait du mal à moi aussi. S'ils ont tant célébré sa gloire, c'est parce qu'elle leur évitait d'avoir à agir eux-mêmes. Sur son visage, ils honoraient leur propre résistance vaincue. Ils se pardonnèrent à eux-mêmes, se déclarèrent innocents et se tinrent ainsi tranquilles. Si elle avait vécu, oh, sûrement ils l'auraient haï. Sa seule idée, c'était mourir. Et maintenant, je dis, sachant qu'il n'y avait pas moyen de l'en empêcher, plutôt que d'accepter la mort, jour après jour, telle qu'elle est, pour prix d'une vieillesse ingrate et stérile, elle préféra aller à sa rencontre, la provoquer même, au nom d'une grandeur d'âme insolente et trompeuse, en faisant de la peur qu'elle avait d'elle-même et de vivre en héroïsme, en déguisant sa propre mort, inéluctable, en une immortalité facile, oui, facile, malgré tout son aveuglant éclat. Comment a-t-elle pu le supporter, mon Dieu ? Elle qu'un rien faisait se mettre en colère tant elle avait peur. Elle était toujours terrorisée devant la nourriture, devant la lumière, devant les couleurs, devant l'eau fraîche et nue.
Jamais elle ne laissa Aimon lui toucher la main, toujours blottie dans un coin, comme si elle n'avait rien voulu perdre, repliée sur elle-même, les mains plongées dans ses manches, le dos collé au mur, les sourcils froncés. Elle était la première à accourir.
Dès qu'un malheur arrivait.
Ressentant de la fierté, peut-être, pour son malheur à elle. Mais quel malheur !
Jamais elle ne porta de bijoux. Même sa bague de fiançailles, elle l'avait enfouie dans un coffre, promenant au milieu de nos jeunes rires sa sombre arrogance, brandissant son regard maussade au-dessus de notre insouciance comme une épée prestigieuse et vaine. Et si parfois on la voyait aider à table, apporter une assiette, une cruche, on aurait dit qu'elle tenait dans ses paumes une tête de mort qu'elle plaçait entre les amphores. Personne ne s'enivrait plus. Ma sœur, c'est comme si elle avait eu honte d'être une femme. C'était peut-être cela, son malheur. C'est peut-être pour cela qu'elle est morte. Chacun de nous voudrait sans doute être autre chose que ce qu'il est. L'un le supporte plus ou moins bien et l'autre pas du tout. La destinée, comme on dit, nous retient prisonniers dans le cercle de l'impossible et nous tournons autour du puits au fond duquel reste enfermée, énigme sombre et insoluble, notre visage. Ma sœur, elle, refusait tout conseil, toute concession, inflexible et désespérée. Un été, cependant, alors que tous dormaient et que je descendais les pieds nus l'escalier, je la vis devant le cellier de la salle à manger, une écuelle de résinée à ses pieds, en train de manger à grande cuillerée du pain trempé. Je me retirai aussitôt. On n'entendit plus, soudain, que le chant des cigales dans le jardin. Elle ne m'avait pas vue. Jamais je ne lui ai dit. Elle n'en sut rien. J'avais beaucoup de pitié pour elle, car elle aussi avait faim et elle le savait. Peut-être même avait-elle besoin d'aimer. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir à s'incliner devant son propre désir, qui n'était pas évidemment son œuvre à elle. Il ne dépendait d'elle en rien. La mort seulement, non. Seule l'heure et la façon d'en finir pouvait être choisie. Et c'est un fait, elle les choisit. Et son sans amis, sans personne pour me pleurer, et surtout son sans avoir connu d'homme, fut son véritable aveu, sa première belle humilité, sa seule générosité de femme, sa dernière et son unique sincérité, comme pour justifier en quelque sorte son amère présomption. Cela l'a pardonné à mes yeux. Et c'est autrefois, quand on a voulu ouvrir la terrine et que nous l'avons trouvée à moitié vide, tous la regardaient étonnés. Cette rougeur qui lui vint aux joues, moi, je regardais ailleurs. Aux fenêtres, le jour était d'une blancheur éclatante et pénible, au point que je souhaitais, du fond de moi-même, l'aveuglement de tous, surtout. Quelques roses bêtes pointaient du jardin jusqu'au rebord de la fenêtre, et je sentis, pour la première fois, que la mort n'était pas noire, mais blanche. On ne peut s'en cacher. Deux servantes furent punies pour ce larcin. Je suis sûre que dès ce moment, elle avait décidé de mourir. Elle n'attendait que l'occasion.
La malheureuse fille avait peur de la chair et peur du péché. Quel péché ? Est-ce donc un péché que de vivre en accord avec son désir ?
Jamais ma sœur n'avait été aussi belle que morte. Moi seule lui fardais les joues, ostensiblement. Peut-être me rappelais-je comme elle avait rougi devant la terrine dans la salle à manger. Puis, je lui mis du rouge à lèvres et du noir à ses yeux immenses avec du bouchon brûlé. Elle ne se maquillait jamais. Je lui mis aussi un collier à 5 rangs pour cacher les marques affreuses de sa gorge. De jolies boucles d'oreilles avec leurs 2 petits amours nus. Des bagues, des bracelets et une large agrafe d'or à sa ceinture. Ainsi maquillée, ainsi parée, elle offrait une étrange ressemblance avec moi. « Comme elle ressemble à Ismène !» dit tout bas une petite fille. Maintenant, elle avait renoncé à ses décisions terribles, à ses lignes de conduite morale, à tous ses préjugés et ses ambitions masculines idiotes. Morte, elle était enfin devenue femme.
Et à côté d'elle, son fiancé, nu. Comment se fait-il que nous puissions, avec une telle précision dans la mort, juger de la beauté du corps ? Peut-être était-ce qu'embaumer les fleurs d'oranger dont on les avait recouverts. Et cette jeunesse en âge d'aimer, cette jeunesse dans sa plénitude, sans protection, imprenable. Personne ou presque ne remarqua le corps d'Eurydice.
Les morts, vous savez, prennent toujours beaucoup de place, aussi petits et insignifiants soient-ils, ils grandissent d'un coup et remplissent toute la maison. Parfois, je m'arrête devant un miroir et je me peigne les cheveux. La glace entière est pleine de leur corps. Ce n'est qu'au-dessous de leur aisselle, quand ils ouvrent leurs bras énormes, comme pour m'empêcher de passer, que j'aperçois par instant, rejeté dans un coin, un petit morceau de mon visage, ou l'un de mes 2 yeux, comme si j'étais borgne. Sur les marches de l'escalier, tous les matins, je retrouvais les empreintes poussiéreuses de leurs pieds nus et agrandis. C'était difficile de monter ou de descendre sans leur marcher dessus. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende notre nouveau jardinier monter 4 à 4 les escaliers.
« Madame, madame, les œillets ont fleuri, criait-il hors d'haleine. On aurait presque dit qu'il allait pleurer. Ses cheveux dégouttaient, fraîchement mouillés.
Et en effet, les œillets avaient fleuri. Le jet d'eau était là, un peu plus loin.
Nous sortîmes les cages des canaris, sur le banc du jardin, lavâmes leurs petites soucoupes, leur mîmes de l'eau fraîche et du chènevis, et déjeunâmes sous les arbres. Il commençait à faire chaud. Je mis un œillet dans mes cheveux.
Le pain avait un goût de vivre. Peut-être ces œillets avaient-ils été envoyés par votre père. Il savait combien j'aimais les fleurs. Quand il allait à la ville, il me ramenait toujours dans son mouchoir avec un peu de terre humide, des bulbes des cyclamens sauvages. C'est lui qui m'aidait à les planter. Je crois qu'ils fleurissent encore dans le haut du jardin. Si vous voulez, nous pourrons une fois aller les voir. Dites-lui bien que je me souviens toujours de lui. Rien n'a changé au fond de moi. Non, rien. C'est d'ailleurs là ce qui est triste, au moment où tout change en dehors et autour de nous. Les maisons et les voitures, les visages, les mains, les armes, et les façons de se coiffer, de s'habiller, jusqu'au chapeau que nous portions. Remerciez votre père, de ma part, pour ces magnifiques cadeaux qu'il me fait aujourd'hui. J'espère que son mal ne sera pas grave. Jamais la peur ne m'a quitté qu'il ne m'assoie un jour sur le trône. Il faut avoir quelque chose à fuir pour rechercher les honneurs. Soi-même, ou plus encore les hommes et la vie. Je n'aurais pas du tout aimé être célèbre, n'avoir plus d'ombre, et ne serait-ce qu'un endroit, quelque part, où rester seul, pouvoir lentement retirer mes sandales et jouer, que sais-je, avec les clés de mes tiroirs d'une main insouciante que je laisserais pendre en dehors de mon lit. Autant donc ne pas commander et ne pas être commandé. Est-ce si impossible? C'est bien assez de tout ce qui nous scelle dès avant notre naissance. C'est bien assez de la mort qui nous guette. Avec elle, au moins, on se familiarise, dirons-nous. Et ce qui se passe entre les deux perd de son acuité. Le corps se relâche. Les cheveux, les fenêtres, les yeux perdent de leur couleur. La paume se desserre dans laquelle on avait placé une grande pièce d'or bien dure. Et toute notre vie n'a été qu'une crispation pour conserver cette pièce de monnaie. La peur de la laisser échapper, de la perdre. L'un de nos bras devenait inutile. La moitié de notre vie, toute notre vie devenait inutile.
Maintenant, la main s'est desserrée toute seule, délivrée. La pièce de monnaie est tombée. On nous l'a prise. Il ne reste plus dans la paume que la profonde marque de cet effort interminable. La chair s'est détendue, apaisée.
Tu peux désormais remuer librement tes deux mains. Tu peux marcher et remuer sans crainte tes mains. Vide, dans le vide, une nage lente et légère, dans une merveilleuse gratuité, jusqu'à ce qu'il te mette une autre pièce de monnaie, de bronze, entre les dents. Mais à quoi bon mentir? Comme disait aussi votre père, dans ce corps amolli que je dis, une chose demeure intacte, dure, opiniâtre, c'est le désir et ce sentiment d'un injustifiable retard, et cela n'est pas concevable. Souvent, les femmes à de tels moments, prennent les statues dans leurs bras, les embrassent sur leurs bouches de pierre. Elles rêvent qu'elles passent la nuit avec elles. S'il vous est arrivé jamais de voir les lèvres des statues humides, c'est de la salive des femmes délaissées.
La mémoire, bien sûr, est une sorte de refuge. Et pourtant, elle aussi s'épuise. Il lui faut de nouvelles représentations, ne serait-ce que de hasard, ou même étrangères.
Moi, j'ai choisi cette fenêtre. Quand je me penche ici, moitié dedans, moitié dehors, je regarde, je me souviens. Rien ne m'appartient. Tout est calme. Je recommence à observer les arbres, les oiseaux, les couleurs, les pieds lourds des chasseurs qui reviennent avec le soir, et je suis libre. Ils ont quelque chose à me dire, à me confier. Parfois, j'ai honte de cette nouvelle tendresse, presque cette nouvelle enfance qui s'installe sans que je le veuille au bord de mes lèvres, à peu près comme une hirondelle qui fait son nid dans un toit effondré. Étrange tout de même, comme le bruit s'est apaisé, on ne pouvait plus rien entendre, comme il s'est éteint dans le loin. Je suis donc moi. Étais-je moi? Il y avait alors des gens qui montaient, descendaient. L'un glissait quelque chose à l'oreille de l'autre, de petits gestes spasmodiques, politiciens, militaires, diplomates. Ah, quels gens exécrables! Mon Dieu! Comme appris par cœur et numéroté, copiés les uns sur les autres. On ne savait plus ni le mois, ni l'heure, ni l'année. Guerre, révolution, contre-révolution, combien de fois ce fut la même chose? La cendre vole sur les places, restée des feux qui s'allumèrent pour les grandes fêtes ou pour les morts, la même cendre. Quelquefois, on brûlait aussi ceux qui, la veille encore, méritaient le nom de héros. Les feuilles de laurier ne voulaient plus rien dire. Hors des murs de la ville, les morts étaient légion. J'ai toujours été curieuse des morts. Non pas pour s'essayer à apprivoiser la mort, ni pour m'y habituer. Parfois, j'échappais à la surveillance de ma mère et de mes précepteurs. Je grimpais jusqu'à la forteresse. Je regardais par les meurtrières. Ils transportaient les morts dans des brouettes, sur des brancards, sur des échelles. D'autres restaient couchés en bas dans la plaine, dans des attitudes splendides, calmes, jeunes et beaux, à côté de leurs chevaux tués sous eux. Je les voyais sans, en moi, la moindre tristesse, beaux, voués à l'amour. Jusqu'à ce que viennent nos morts à nous. Et alors, nous avons grandi. Je vis ma sœur à l'aube, dans la cour, marquée par le destin, blême. Ses mains, sa robe, ses cheveux tout couverts de terre. La bise matinale nous transperçait, nous tremblions. Le jour descendait, immensément blanc, criblé de corbeaux noirs. Mais pourquoi tout cela, mon Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Le reste, vous le savez.
Il n'est rien resté. Seulement le sphinx de pierre, indifférent, est toujours là, sur son rocher, à l'entrée des portes de Thèbes. Il ne pose plus de questions. Le vain bruit s'est épuisé. Le temps s'est vidé. Un dimanche à n'en plus finir avec les fenêtres fermées. Incroyable. Comme les soirs d'été, on arrose encore les jardins. Un fossé de silence, comme vous avez dit. Regardez, la lune vient d'apparaître. On entend aussi dehors le jet d'eau. Vous ne l'entendez pas ?
Vos mains sont belles avec les cales du travail de la terre. J'espère que vous n'allez pas rester dans l'armée. Quand vous aurez fini votre service, retournez à la ferme auprès de votre père. Vous voyez cette porte ici? Elle conduit à mes appartements. Le couloir qui donne plein sud n'est jamais gardé. Frappez cette fois. À minuit, je vous ouvrirai. Allez. La nuit est belle. Et prenez garde à l'escalier.
Il fait sombre. Elle rentre dans son appartement, tandis que dans l'escalier, on entend encore les pas du jeune officier qui s'éloigne. Elle cherche à tâtons des allumettes dans la table de nuit, allume les trois bougies du chandelier, frappe au disque de métal, la nourrice apparaît. « Je ne dînerai pas ce soir, dit-elle, je n'aurai pas besoin de toi. Tu peux aller te coucher, attends. Apporte-moi un verre d'eau. » Et remonte cette horloge dans le salon. Nous l'avions oubliée. Prends aussi cette corbeille avec les fruits. La plante, tu la mettras à la fenêtre. La servante apporta l'eau et s'en alla. De nouveau, le silence. Elle ferme ses deux portes à clé. On entend maintenant l'horloge à côté. 9h. 9h15. 10h. 10h30. Devant le miroir, elle se démaquille, se déshabille. 11h. Elle enlève les colliers. 11h15. Elle saisit le chandelier dans sa main gauche, s'approche du miroir. Expression de nausée sur le visage immobile. 11h30. Elle commence à se maquiller, met une robe rouge, remet ses bijoux, s'allonge sur le fauteuil de velours rouge, en face du miroir. Elle ferme les yeux. Minuit. 7 coups discrets à la porte. Silence. De nouveau, 7 coups, plus fort. Silence. Et de nouveau, les coups. Puis, plus rien. Un long silence. Le verre brille, elle se lève, s'approche du miroir, recommence à se maquiller, blanche comme du plâtre. Les yeux immenses. Très noir, un masque de plâtre. Elle se change, revêt une robe de sa sœur, étroite, tombant en droit, plissée, de couleur marron. Elle met une ceinture avec une large agrafe, ouvre le tiroir de la commode, prend quelque chose. Le dos tourné au chandelier et au miroir, elle boit l'eau, à petites gorgées irrégulières, comme si elle prenait des aspirines. Elle s'allonge sur le lit, tout habillée, avec ses sandales, immobile, tranquille. Elle ferme les yeux. Elle sourit. A-t-elle dormi ? Dans la pièce à côté, on entend l'horloge.